Naima Mouchou était dans le Nord. Ce mercredi, elle a rencontré le président de la province, des représentants du monde agricole et les jeunes du RSMA. Bonne nouvelle pour les 9000 élèves demi-pensionnaires internes de la DEC, les cantines ont rouvert ce mercredi. Les membres du gouvernement réunis ce matin, ils ont notamment adopté un avant-projet de loi du pays relative à l'accueil des mineurs. Le tribunal administratif donne raison à la province sud sur la fermeture du collège de Rivière-Salée. Le recours de l'UGPE a été rejeté. Et puis du sport, les Océaniens de Force Athlétique, c'est la semaine prochaine en Nouvelle-Zélande. Le Calédonien Victor Tirbach visera l'or. Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans Info Soir pour tout savoir de l'actualité en Calédonie et dans la région Pacifique. Et à la une de l'actualité, bien évidemment, la visite de Naima Mouchou sur le territoire, une première partie de journée en province nord. Ce mercredi, la ministre des Outre-mer a consacré la matinée à la rencontre de plusieurs acteurs de la brousse et de la Grande Terre. Elle a commencé par un déplacement à l'hôtel de la province nord où elle a été accueillie, Michael Geneski, un accueil chaleureux par le président de l'institution.
En effet, Paul Niaoutine qui a réservé un accueil chaleureux à Naima Mouchou avec tout d'abord une coutume de bienvenue. Naima Mouchou a rappelé que ce n'est pas sa première venue en Nouvelle-Calédonie et en province nord, même si elle n'était pas alors ministre des Outre-mer. Et elle a tenu à remercier le président de l'institution lors d'un geste en rappelant ses origines marocaines et berbères, où le respect des traditions fait également partie de la culture. Tout comme la symbolique de la natte, elle a souhaité repréciser les raisons de sa venue avec avant tout l'importance de l'écoute.
Nous revoyons aujourd'hui quelques années plus tard, toujours pour évoquer le passé et toujours pour parler d'avenir, car l'un ne va pas sans l'autre. Et j'ai beaucoup insisté depuis mon arrivée sur le respect que nous devons à l'histoire, aux mémoires et au dialogue vrai. Rien ne peut se construire si nous n'affrontons pas la réalité de ce qui a été, de ce qui est et de ce qui sera. Et donc c'est important de se dire les choses comme nous l'avons toujours fait. Et je suis heureuse que le lien existe déjà et que nous continuons ensemble à le perpétuer. Je le dis d'autant plus qu'il y a un espoir de voir un avenir se construire, un chemin se tracer. Vous avez cette capacité, Monsieur le Président, à rassembler vous-même. Vous savez ce que ça signifie. Vous faites partie de l'histoire de ce territoire, vous l'avez forgé. Nous aurons besoin de vous, évidemment, pour traverser cette période de l'histoire, toujours avec la même méthode, celle de l'échange, celle du respect profond et celle de l'amitié, je l'espère.
Et Paul Niaoutine a pour sa part longuement expliqué à Naima Mouchou le sens et la symbolique et surtout sa vision du geste coutumier réalisé avant un entretien. Par ailleurs, il a mis en garde ceux qui souhaitent réinterpréter ses propos. Il s'est montré très amical avec la ministre des Outre-mer. Tendez bien l'oreille pour cet extrait de la prise de parole de Paul Niaoutine.
Je suis toujours sur les fondamentaux culturels, politiques. Je suis quelqu'un qui a toujours respecté ce pour quoi il a été mandaté et les résultats de ce sur quoi j'ai été mandaté. Là, je le rapporte à mes mandants et je me tiens sur les fondamentaux culturels, politiques. Ceux qui veulent me donner une signification, c'est d'ailleurs le droit. Mais moi, quand je dis off, c'est off. Ce que je dis à l'Assemblée de la province nord, c'est public. Et moi, j'accepte de pas que ceux qui ne sont pas là interprètent ce que je dis. Moi, je n'ai jamais accepté de faire instrumentaliser par qui que ce soit, en interne, ni au niveau de l'État.
Paul Niaoutine qui a notamment déclaré, je cite, « Je suis toujours sur les fondamentaux culturels, politiques. Je suis quelqu'un qui a toujours respecté ce pour quoi il a été mandaté et les résultats de ce sur quoi j'ai été nommé. Là, je le rapporte à mes mandants et je me tiens sur les fondamentaux culturels, politiques. Ceux qui veulent en donner une justification, c'est à eux de voir. Mais moi, quand je dis off, c'est off. C'est ce que je dis à l'Assemblée de la province Nord. C'est public. Moi, je n'accepte pas que ceux qui ne sont pas là interprètent ce que je dis. Je n'ai jamais accepté d'être instrumentalisé par qui que ce soit en interne ou au niveau de l'État. » Fin de citation. Avant cet entretien donc entre Paul Niaoutine et Naima Mouchou qui aura duré près de 2 heures ce matin à l'hôtel de la province Nord à Koné.
Ensuite, Michael, la ministre des Outre-mer a ajouté une séquence à son programme, une visite auprès des gendarmes de la compagnie de Koné. un déplacement hors presse. Puis elle a pris la direction de Point Boot pour une séquence dédiée au monde agricole.
Sur la propriété de Stéphane Souris-Lavergne, producteur de la commune, sur un domaine de 170 hectares, il a eu l'occasion de faire passer un certain nombre de messages qui préoccupent particulièrement les agriculteurs calédoniens. Il était également en compagnie du maire de Point Boot ou encore, entre autres, de Jean-Christophe Niotou, le président de la Chambre d'agriculture et de la pêche. Tous ont apprécié l'intérêt que la ministre a porté au monde agricole calédonien. Et Stéphane Souris-Lavergne a apprécié de rencontrer une ministre attentive aux inquiétudes et aux ambitions des agriculteurs.
Merci beaucoup. Voilà. Très touché.
C'est moi
merci
qui vous remercie.
Infiniment. Merci de m'avoir reçu.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup de m'avoir reçu. Voilà. Merci du temps consacré.
Merci à vous d'avoir pris du temps pour
nous,
pour
le monde agricole. Merci beaucoup, vraiment.
Mais je n'attendais pas d'annonce de Madame la ministre, mais par contre une écoute. Et je pense qu'elle a su avoir une oreille attentive au monde agricole. Et c'est quelque chose qui me fait vraiment plaisir. Elle a écouté la problématique que les agriculteurs pouvaient avoir avec la situation du pays. Et donc voilà, donc c'est une oreille tendue au monde agricole.
Et concernant le monde agricole, la suite de la séquence était cette fois tournée vers la jeunesse, avec des élèves du lycée de Pointe-Boute qui avaient fait le déplacement pour échanger avec la ministre des Outre-mer.
Un petit pot de miel avec un tricot du lycée et puis des petites couronnes.
Ça nous fait quand même quelque chose d'avoir une personne assez importante en face de nous. Du coup, on est un peu stressé et gêné.
Ça a été quand même.
Ça va nous aider quand même pour poursuivre dans notre lancée pour les oraux, les parler avec nos futurs employeurs.
Oui, stresser un petit peu parce que on parle avec quelqu'un de très très haut aussi. C'est pas tous les jours qu'on peut parler avec des personnes comme ça. Awesome.
22 élèves du lycée agricole Michel Rocard de Pointe-Boute qui avaient fait le déplacement ce matin. La ministre des Outre-mer a pris le temps de saluer et d'échanger avec chacun d'entre eux.
Et puis toujours sur le thème de la jeunesse, Naïma Mouchou a ensuite rendu visite aux membres du RSMA de Koné pour achever cette matinée.
Une nouvelle rencontre avec des stagiaires du régiment du service militaire adapté, des jeunes formés à différentes missions sous encadrement militaire, un RSMA qui dépend du ministère des Outre-mer et qui peut aussi contribuer à effectuer des missions au service de la population, par exemple en cas de cyclone ou d'incendie. Le lieutenant-colonel Faldoni Révillon, commandant du RSMA en Nouvelle-Calédonie.
L'idée de cette séquence était de la mettre au contact de la jeunesse calédonienne qui sert actuellement au régiment pour se former à leur avenir et trouver un emploi dans les mois et dans les semaines qui viennent. Elle était très très attentive à l'origine de recrutement en fait des jeunes qui servent au RSMA puisque nous recrutons sur l'ensemble du territoire calédonien et même jusqu'à Wallis et Futuna avec qui nous avons une convention. Et puis effectivement on a abordé le sujet de la féminisation du régiment puisque nous sommes le régiment du service militaire adapté qui compte le plus de femmes en ses rangs, à savoir 46%. C'était aussi pour nous de montrer quelles étaient les perspectives du régiment pour les années à venir, avec en particulier la volonté du régiment et du service militaire adapté en règle générale de continuer d'œuvrer au profit du territoire. Et en l'occurrence, pour la Nouvelle-Calédonie, on étudie la création d'une nouvelle compagnie dans la région du Grand Nouméa.
Et des jeunes stagiaires qui ont été honorés de rencontrer Naïma Mouchou, d'autant plus pour ceux qui ont pu recevoir une distinction à cette occasion.
Je m'appelle Mako Garna. Je viens de l'IFO, c'est une fierté pour moi. Je suis content que c'est le Premier ministre qui donne la médaille. Elle nous encourage pour notre projet pour plus tard, après le RSMA.
Kehaolani. Aujourd'hui, on a reçu le brevet du SMA échelon A. C'est pour récompenser les stagiaires et les volontaires. C'est un honneur, parce que la plupart du temps, on reçoit ça par le capitaine. Là, c'est la ministre qui nous l'a réuni. En plus, le brevet du SMA, ça signifie qu'on voit ce qu'on fait, que notre travail il a été vu, il a été mérité. Et ça fait du bien un peu.
Naïma Mouchou qui a de nouveau pris le temps d'échanger avec les jeunes de plusieurs formations au sein du régiment du service militaire adapté de Koné.
Et cette visite en province nord a pris du retard. Naïma Mouchou a donc annulé son déplacement au Mont-d'Or cet après-midi. Elle devait rencontrer les gendarmes sur le verrou de Saint-Louis, mais elle a pu les rencontrer ce matin à Koné. Elle devait aussi s'entretenir avec l'association Citoyen Mont-Dorien. Son président, Florent Perrin, regrette l'annulation de cette rencontre. Il a demandé une entrevue à la ministre avant son départ en fin de semaine. L'État et la Nouvelle-Calédonie doivent maintenant apporter des solutions concrètes et durables pour les habitants du Grand Sud. Après 9 mois de blocage et une forte et coûteuse présence de gendarmerie depuis plus d'un an maintenant sur la RP1, indique-t-il dans un communiqué. Demain, sauf changement de programme, Naïma Moutchou visitera pour son 4e jour sur le territoire le camp Est en début de journée. Elle prendra ensuite la direction de l'IFOU. La ministre des Outre-mer s'entretiendra avec le président de la province des îles, Mathias Ouaneux, mais aussi avec les maires des loyautés. Naïma Moutchou rencontrera ensuite des membres d'associations de femmes, des acteurs du tourisme en Nouvelle-Calédonie. Elle terminera sa journée à l'IFOU par la visite de la maison de la vanille et du miel. Place maintenant à vos rendez-vous d'antenne sur Radio Rythme Bleu. Le président national de la CFE-CGC achève un séjour d'une dizaine de jours en Nouvelle-Calédonie. François Omeril sera demain matin notre invité à 7h30. Nous l'interrogerons sur le regard qu'il porte sur la situation économique et sociale sur le territoire, mais aussi sur les grands dossiers sociaux en métropole, de la probable suspension de la réforme des retraites à la préparation du budget 2026. L'investissement participatif peut-il participer à la relance de l'économie ? C'est ce que nous verrons demain dans les Jeudis de l'économie Radio Rythme Bleu. Plusieurs nouveaux projets sont prêts à recevoir des levées de fonds. Qui peut participer ? Quels sont les avantages à financer un projet calédonien ? Nous en parlerons avec Amandine Durand, co-gérante d'IRP Patrimoine, Nicolas Laurent, associé fondateur d'Invest in Pacific, et deux porteurs de projets, Pierre Dorchy de la société Digibar et Joël Despujol de la société Agrilogic.
Radio Rythme Bleu, opinion.
C'est donc l'heure d'opinion, votre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu. Notre question du jour, trouvez-vous normal que Nicolas Sarkozy, qui a été remis en liberté sous contrôle judiciaire, et l'interdiction de rencontrer le ministre de la Justice, Gérald Darmanin? Si vous trouvez que c'est normal, vous tapez 1, sinon vous tapez 2 et vous envoyez votre réponse au 3146. 17h56, on marque une première pause dans ce journal avant de voir le reste de l'actualité sur le territoire.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
Votre tranquillité d'esprit, avant tout. Pour recevoir toutes les informations importantes sur les coupures, le montant de votre facture et la date d'autorelève, mettez à jour vos contacts e-mail et numéros de téléphone. Contactez-nous à clientèle@cde.nc ou au 05 01 25. Calédonienne des eaux, l'eau qui nous unit.
Pour gagner des bons d'achat de 100 000 francs, à dépenser où vous voulez, comme vous voulez, envoyez RRB au 4020. Tous les 1500 SMS, pile sur le compteur, 100 000 francs de bons d'achat sont gagnés. Il n'y a pas de liste préétablie, les gagnants décident comment se faire plaisir. Et si vous n'êtes pas pile sur le compteur, votre SMS est enregistré automatiquement pour le jeu du million. Oui, 1 million de bons d'achat sont à gagner par tirage au sort parmi tous les SMS reçus. Alors tentez votre chance en envoyant RRB au 4020. 371 francs par SMS, règlement disponible à l'accueil de la radio. N'oubliez pas, RRB au 4020. Bonne chance.
Info soir, Léo Fichou.
Après avoir été fermé pendant plus d'une semaine à la suite d'un bras de fer entre la direction diocésaine de l'enseignement privé et les institutions, les cantines ont rouvert aujourd'hui dans l'ensemble des écoles catholiques du territoire. Une réouverture partielle, hein, puisqu'en ce mercredi, les effectifs de demi-pensionnaires n'étaient pas au complet, comme l'explique ce cuisinier du collège Saint-Joseph de Cluny.
Oui, mais sauf que là, la reprise n'est pas avec les internes. C'est pas la totalité des élèves qu'on a. Donc là, c'est un peu minime comme ça, dans la mesure que les internes ne sont pas rentrés hier la veille, ils rentrent là aujourd'hui. Ça fait qu'il y en a là, on a une petite partie qui vient et qui reprend dans la cantine, mais la majorité des internes vont rentrer plus tôt que ce soir. Et le rush sera demain. Jeudi, là, on aura les deux établissements qui viendront.
Cette réouverture du service de cantine dans les établissements de l'ADEX est une bonne nouvelle pour les 9000 élèves demi-pensionnaires et internes qui ne pouvaient plus y manger depuis le 3 novembre dernier. Des élèves heureux de retrouver leurs habitudes.
Il était temps parce que c'est vrai que ça revient cher de devoir acheter des gamelles tous les jours à 1000 francs.
Oui, c'est bien parce que quand il n'y avait pas, on se débrouillait pour manger. Du coup, c'était pas ouf.
Et comment tu faisais, toi, pour manger le midi ?
Je mangeais les sandwichs que la PU, ils ont payé pour nous.
Non, en vrai, franchement, je pense que c'est mieux que ça a réouvert. Ça facilite les gens parce que voilà, ça revenait cher un peu d'aller dehors tout le temps pour manger. Mais du coup, c'est très très bien.
Pour ma part, aujourd'hui on a bien mangé, que la reprise en gros s'est bien passée parce que la semaine dernière on n'a pas eu de cantine et c'était un peu compliqué aussi pour manger jusqu'à notre fin. Heureusement qu'il y avait la PE, heureusement qu'il y avait eux parce que personnellement j'ai pas les moyens et du coup j'aurais rien mangé s'il n'y avait pas la PE.
Des propos recueillis par Marie Romain. Et à propos justement des difficultés de l'enseignement privé, notamment de l'ADEC, le gouvernement a adopté ce matin les arrêtés qui répartissent l'enveloppe de 400 millions de francs adoptée il y a quelques jours par le Congrès de la Nouvelle-Calédonie. Écoutez Isabelle Chamorro, membre du gouvernement en charge notamment de l'enseignement.
Cette enveloppe, elle est exclusivement, je voudrais dire, réservée à la partie primaire, hein, à la cantine, et pour soutenir tous les enseignements privés sur cette fonction. Donc ce qui est spécifique à l'ADEC, c'est comme ça a été décidé au Congrès, c'est un versement qui va se faire en 3 fois, parce qu'il est également conditionné à un audit qui va nous permettre d'accompagner l'ADEC, aussi bien sur les aspects financiers que d'organisation interne, et puis dans un deuxième temps, de prévoir un petit peu sur les années à venir ce qui pourrait se passer en termes de carte scolaire. On a une convention qui devrait être signée par l'ADEC et qui vraiment précise ses modalités de versement avec la nécessité de fournir tous les éléments qui seront demandés par le cabinet. Alors cet audit, il va être financé par la Nouvelle-Calédonie et on est en cours de consultation de cabinets privés indépendants pour réaliser justement en toute neutralité cette étude.
La répartition de l'enveloppe de 400 millions s'est faite de la manière suivante. 300 millions pour l'ADEC, 42 millions pour la FELP et 58 millions pour les structures de l'ex-ASE. Les membres du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie qui se sont donc retrouvés ce matin pour leur réunion hebdomadaire, on en retiendra notamment, Lionel Sabot, l'adoption d'un avant-projet de loi du pays relatif à l'accueil des mineurs.
Oui, l'objectif de ce nouveau texte est de proposer un dispositif commun applicable à tous les établissements susceptibles d'accueillir des mineurs. Cet avant-projet de loi du pays vient remplacer 2 textes déjà existants, une délibération et une loi du pays. Écoutez Isabelle Chamorro, membre du gouvernement en charge des sujets de la famille.
On avait 2 textes qui régissait les règles dans les accueils pour mineurs. Il y avait une délibération qui était plutôt sur les vacances scolaires, temps de loisirs, donc on est plus sur extrascolaire et centre aéré, et on avait tout ce qui était dans les crèches, ça c'était le mode pays. C'est un texte qui permet de pouvoir couvrir toutes ces activités avec des règles simples et puis évidemment des sanctions quand ce n'est pas respecté. Donc c'est vraiment un renforcement de la réglementation et de la sécurisation de tous les accueils des mineurs.
Alors, un seul texte. Et lors de cette séance du gouvernement, Christopher Gigès a par ailleurs évoqué pour la première fois en collégialité le budget primitif 2026 de la Nouvelle-Calédonie. L'occasion pour lui de présenter à l'ensemble des membres du gouvernement les objectifs, mais également la méthode qu'il compte mettre en place pour construire ce budget primitif.
Les objectifs, c'est d'avoir vraiment un budget qui est en responsabilité, avec des recettes qui sont bien entendu contraintes, mais également un budget de refondation de la Nouvelle-Calédonie qui permet de donner des perspectives, et un budget qui se veut participatif dès le début, à la fois avec les membres du gouvernement, mais également avec les élus du Congrès, notamment les chefs de groupe et les présidents d'institutions. Sur les ressources de l'État, nous avons demandé à la ministre un complément. Par contre, nous ne souhaitons pas que ça soit un prêt. Je crois que les prêts, ça suffit. Pour ma part, je proposerai qu'on suspende les remboursements de prêts le temps que la Calédonie aille mieux et le temps que nous mettions d'accord sur les contrats de désendettement. Je pense qu'il est sain que nous discutions d'un étalement quand on saura ce qui sera transformé en subvention et ce qui se restera comme prêt.
Et j'ajoute que lors de cette réunion hebdomadaire, le gouvernement a également délivré 3 autorisations d'exercer de manière temporaire pour 3 personnels de santé titulaires de diplômes étrangers délivrés hors Union européenne. Le gouvernement qui a par ailleurs refusé 5 demandes d'autorisation.
Dans l'actualité institutionnelle, toujours, les élus de la commission permanente du Congrès de la Nouvelle-Calédonie se sont retrouvés pour une séance express en début d'après-midi, boulevard Vauban. Ils ont adopté 3 délibérations très techniques. L'une de ces délibérations fixe au 20 novembre prochain la date d'ouverture de la seconde session ordinaire de l'année. Le tribunal administratif donne raison à la province sud sur la fermeture du collège de Rivière-Salée. L'UGPE avait en effet introduit un recours pour contester cette fermeture, recours rejeté par le tribunal administratif. Rappelons que cet établissement avait été totalement vandalisé et en partie incendié lors des émeutes de mai 2024, Jean-François Baudin.
Le tribunal a d'abord considéré que la décision de la province sud de fermer le collège de Rivière-Salée ne contrevenait pas à l'organisation du service public de l'enseignement du second degré, qui par délibération du 28 septembre 2015 stipule que cette compétence en la matière est partagée entre la province et le gouvernement. Cette décision de la province sud de fermer le collège de Rivière-Salée correspond à une réalité et le tribunal a motivé sa décision en mettant en avant plusieurs arguments, nous a dit Gilles Brial, deuxième vice-président de la province sud en charge notamment de l'enseignement.
c'est surtout la prise en compte qu'il y a moins d'élèves dans l'agglomération. Il y avait une baisse avant le 13 mai et il y a une grosse baisse depuis le 13 mai 2024 et qu'il y a moins besoin d'établissements scolaires vu les finances de la province. C'est logique finalement d'accepter la fermeture d'un établissement brûlé plutôt que de le reconstruire alors qu'il y a déjà assez d'accueil d'élèves possible dans l'ensemble des établissements. Et deuxièmement, le fait que les collégiens de Rivière-Salée aient tout de suite été pris en charge dans d'autres établissements, Porte de Fer en l'occurrence, et donc il n'y a pas eu de rupture de continuité de droit à l'accès à l'enseignement.
L'UGPE a décidé de ne pas faire appel de cette décision du tribunal administratif. Cette étape juridique étant franchie, nous avons demandé à Gilles Brial ce qu'allait devenir l'ancien collège de Rivière-Salée, rendu inutilisable et trop coûteux à rénover.
Déjà, c'est démolir les deux bâtiments qui ont été abîmés par les incendies. C'est de sécuriser ensuite ce foncier et après de voir avec les autres collectivités, la Nouvelle-Calédonie, mais également la commune et les établissements publics, quels sont les besoins dans cette zone et qu'il y ait une reconstruction vu la difficulté financière de l'ensemble des collectivités, d'essayer de mutualiser nos forces pour reconstruire des équipements à la population.
Ce travail de concertation ne fait que débuter et aucun projet précis n'a pour l'instant été validé.
RRB, il est 18h05.
C'est un bâtiment historique en Nouvelle-Calédonie, fermé depuis septembre 2023. La bibliothèque Berneim est en travaux depuis 2 ans déjà. Sa réouverture approchant, la structure temporaire rue Anatole France, en haut de la place des Cocotiers, va fermer pour que les équipes puissent déménager. Le lieu offrait un lieu de lecture, un service d'emprunt avec près de 10 000 livres, mais aussi un espace jeunesse. Solange Payandi est la directrice de la bibliothèque Berneim.
On va fermer cette bibliothèque pour préparer l'installation dans les nouveaux locaux de la bibliothèque Berneim. Et donc, nous avons besoin de temps pour préparer les collections de livres qui vont intégrer la nouvelle bibliothèque. On sera à peu près sur 50 000 livres. Et en fait, nous allons passer donc sur un nouveau système concernant la gestion de ces livres, de nouveaux équipements qui vont nous permettre d'assurer la meilleure sécurité de nos livres et aussi d'en gérer le prêt, le retour, comme nous le faisions jusqu'à présent.
Il n'y aura donc plus d'accueil de public après le samedi 15 novembre, ce samedi donc. Pas de date précise concernant l'ouverture de la bibliothèque Berneim. Les travaux avancent tout de même, selon Solange Payandi.
Le bâtiment devrait être livré en février 2026, mais l'ouverture au public ne se fera pas immédiatement. Il y aura une période de marche à blanc de quelques mois donc pour tester les nouveaux équipements avant qu'on puisse accueillir du public à nouveau. Alors la date d'ouverture n'est pas encore fixée, mais on a bon espoir que l'ouverture se fasse dans le premier semestre 2026.
Et notez que pendant cette période de fermeture, le nombre de documents empruntés est augmenté à 10 livres par adhérent. La durée du prêt est également prolongée jusqu'à la réouverture de la bibliothèque Berneim. Pendant cette période, les retours pourront se faire à l'antenne du Medipol ou sur rendez-vous auprès des bibliothécaires. 18h passées de 7 minutes, seconde pause et dernière. Dans ce journal, on parlera de l'actualité dans la région juste après.
RRB, pour être au cœur de l'actualité.
My Primeur propose fruits et légumes, épicerie, œufs, miel, confiture, achats, un rayon boucherie, boulangerie, fromage, crèmerie, un espace vrac, une sélection de surgelés et autres spécialités. Visitez la page Facebook My Primeur Nouméa. Du lundi au dimanche, My Primeur, 20 route du Vélodrome à l'Orphelinat, dans la côte de l'église du Vœu, 30 51 30.
Savez-vous que la pièce qui consomme le plus d'énergie est la cuisine ? Pensez à couper l'alimentation de la plaque électrique ou de votre four quelques minutes avant la fin de cuisson, car la chaleur résiduelle permet de terminer la cuisson ou de garder les aliments au chaud.
Retrouvez toutes les astuces éco-conso sur le site EEC. Sur RRB, il n'y a pas de jour sans EEC.
Construisons notre pays. Économisons l'énergie.
RRB, pour être au cœur de l'actualité.
La fin de votre journal avec Léo Fichou.
L'actualité dans la région et l'on reparle des tensions entre la Nouvelle-Zélande et les îles Cook. Le gouvernement des Cook vient de préciser qu'en dépit des turbulences actuelles entre les deux pays, il continuera bel et bien à entretenir des relations durables avec la Nouvelle-Zélande puisque les deux pays sont liés par un pacte de libre-échange. C'est la correspondance de Jean-Pierre Zajac.
Cette mise au point est venue en réponse à la décision prise par Wellington de suspendre le versement d'une deuxième tranche de développement des îles Cook, portant ainsi le montant total des sommes en suspens à environ 1 milliard 750 millions de nos francs. le désaccord entre les deux gouvernements découle de quatre pactes que le premier ministre des îles Cook, Mark Brown, a signé avec la Chine en début d'année, sans consultation préalable avec Wellington, qui s'en est offusqué. Nous restons attachés à notre relation durable de libre association avec la Nouvelle-Zélande, a déclaré un porte-parole du gouvernement de Mark Brown. Les îles Cook sont seules responsables de la détérioration des relations entre nos deux pays, a estimé en réponse le premier ministre kiwi, Chris Luxon. À Sydney, Jean-Pierre Zajac, RRB.
On termine avec le sport dans la région. Toujours, les Oceania de Force Athlétique démarrent lundi à Christchurch, c'est en Nouvelle-Zélande. Et parmi les athlètes en compétition, on retrouvera un Calédonien, Victor Thierbach. À 30 ans, ce sera sa première compétition internationale. La concrétisation de 10 ans de travail, nous a-t-il dit avant de partir. Il s'envolera demain pour la Nouvelle-Zélande. Écoutez.
C'est ma toute première compétition internationale et donc la première aussi en tant que représentant du territoire. Hyper excité. C'est la concrétisation de plus de 10 ans d'entraînement, de sacrifices, de joie, de pleurs, de remise en question, de travail. Ça fait vraiment super plaisir. Mon point fort étant le développé couché, je vais participer à la catégorie développé couché seul. C'est là où je performe le plus et que je prends de plus de plaisir aussi. Moi, mon record personnel en compétition, il est à 220 kilos. Et le record du Pacifique, il est à 230. C'est les barres que j'aimerais approcher, alors peut-être pas à cette compétition, mais peut-être l'année prochaine. L'objectif, ce serait de faire ce genre de performance, quoi.
Victor Thierbach sera engagé lundi dans la catégorie Open, moins de 120 kilos sur le développé couché lors des Oceania de Force Athlétique qui auront lieu en Nouvelle-Zélande. 18h11 après le sport, place à la météo.
La météo avec la 7. 6 magasins sur l'ensemble du territoire pour vous accompagner dans tous vos projets. La 7, construire, rénover, aménager.
Et la météo, c'est avec vous, Pierre.
Cette nuit, le ciel restera bien dégagé sur la côte est, Belep et Ouvéa, tandis qu'ailleurs, les nuages domineront, apportant quelques averses éparses. Et ça, ce n'est pas une surprise. Le vent s'orientera au sud, soufflant entre 10 et 15 nœuds et pourra atteindre jusqu'à 20 nœuds sur la pointe nord-ouest en seconde partie de nuit. Sur la côte est, il restera plus faible, avec quelques accélérations locales dans les vallées. Les températures minimales seront en baisse, comprises entre 17 et 23 degrés. Demain matin, le ciel sera passagèrement nuageux sur la côte ouest, l'extrême sud et le sud des Loyautés, avec quelques averses isolées, oui encore. Sur le reste du territoire, le soleil dominera largement, le vent de secteur sud se renforcera progressivement entre 15 et 20 nœuds, tandis qu'il restera plus faible de 5 à 10 nœuds d'est à sud-est sur la côte est. Et côté marée pour nos amis les pêcheurs, la mer sera basse ce soir vers 20h12 avant de remonter dans la nuit pour un plein niveau attendu à 1h26, puis de redescendre demain matin autour de 7h45.
Merci beaucoup Pierre et merci à vous d'avoir suivi ce journal, c'est la fin de cette édition. On se retrouvera à 19h pour le rappel des titres, mais tout de suite place au journal d'Europe 1 et il sera suivi à 18h30 de l'invité d'Europe 1 ce soir. Sonia Mabrouk reçoit Marion Maréchal, présidente d'Identité Libre.